Collective, l'émission qui explore les questions féministes. Tous les deuxièmes et quatrièmes jeudis du mois, à 18h, sur Fréquence 7.
Le monde est en train de se recomposer avec des femmes qui osent dire stop ou qui osent dire je veux une vie égale à toi.
Qu'est-ce qu'on a tous comme responsabilité collective pour que ça arrive? C'est ça dont on parle. Si vous voulez, les monstres, ça n'existe pas. C'est notre société, c'est nous, c'est nos amis, c'est nos pères. C'est ça qu'on doit regarder.
Salut. Aujourd'hui, sur le plateau de la collective, il y a Vanessa.
Salut.
Élodie.
Salut.
Et Clara à la technique.
Salut.
Et salut Alizée.
On se retrouve comme promis le mois dernier pour poursuivre notre réflexion autour de la famille. On sait bien que vous êtes des auditeurs et auditrices fidèles, mais si jamais vous aviez piscine, sachez que nous avions tenté de décortiquer pourquoi la famille nucléaire était présentée comme étant la norme. Et ce mois-ci, on s'intéresse à celles et ceux qui réinventent de nouvelles manières de s'épanouir à travers la famille. Parce que malgré les critiques que nous estimons devoir faire à la famille, nous ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain.
Qui serait un comble.
Il nous paraît important de rappeler qu'au sein d'une société inégalitaire comme celle dans laquelle nous évoluons, la famille peut aussi constituer un refuge. Bell Hooks s'exprimait ainsi il y a environ 40 ans depuis les États-Unis. Elle regarde les écueils du mouvement féministe blanc au sujet de la maternité.
Si les femmes noires avaient exprimé leur vision de la maternité, celle-ci n'aurait pas été désignée comme un obstacle majeur à notre libération en tant que femmes. Le racisme, le manque de travail, le manque de qualification et d'éducation, et un bon nombre d'autres problèmes auraient été placés en haut de la liste, mais pas la maternité.
L'espace domestique peut bien sûr être un lieu où on expérimente la solidarité, l'amour, le respect. Un lieu d'autant plus important quand le quotidien à l'extérieur de la maison ou de la communauté est fait de violences racistes, sexistes, homophobes ou de classe. La question, c'est de savoir comment on fabrique ces familles comme lieu d'émancipation. Alors, comme dans toute émission qui se respecte, on se doit de donner la parole à une experte sur le sujet. Et comme sur BFM TV, on choisit une experte dont l'objectivité ne fait aucun doute. On laisse la parole à Vanessa.
Bon, si vous êtes fidèle à la collective, vous savez que j'aime pas la famille, je n'ai ni enfant, ni mari, mais une vieille chatte avec qui faire ménage. Je voulais cette fois vous vanter le modèle harmonieux de famille qu'on invente avec Titi, la vieille chatte en question. Mais j'ai vérifié auprès de l'INSEE et on n'est pas une famille. L'INSEE nous dit... Une famille est la partie d'un ménage comprenant au moins deux personnes et constituée soit d'un couple vivant au sein du ménage, avec son ou ses enfants, soit d'un adulte avec son ou ses enfants appartenant au même ménage, famille monoparentale. Je comprends donc qu'avec mon absence de mari et d'enfants, je suis un ménage sans famille. Mes parents et ma sœur vivent loin, et je n'ai aucun lien avec ma famille plus éloignée. Le soutien de mes parents est bien réel, notamment sur des questions matérielles, mais dans les joies et les galères du quotidien, on peut pas dire que ma famille soit présente. Bon, mais alors ta chronique est complètement hors sujet, me direz-vous. Et sans doute que l'INSEE serait d'accord avec vous. Mais sachez que je loupe pas un espace radiophonique pour raconter ma vie comme ça. Et que dans un contexte où ce cher J.D. Vance, vice-président des États-Unis, explique que le principal problème de son pays est d'avoir été dirigé par des « femmes à chat sans enfants malheureuses », eh bien, Titi et moi, on a envie de relever fièrement la tête pour vous vanter notre modèle. Avant d'être célibataire à chat, j'ai vécu en couple pendant 10 ans. J'avais déjà un chat, mais bon, comme j'avais un mari, c'était ok. Et lorsque ça s'est arrêté, j'ai eu le vertige de me demander à qui j'allais raconter les événements majeurs de ma journée, tel le détail de mon repas de midi. Le vertige de savoir à qui j'allais demander de garder mon vieux chien, de venir me dépanner pour les galères de bagnole à 23h au col de l'Escrinet. Qui pour me serrer dans ses bras les soirs où le monde est trop triste et la vie définitivement une corvée? Qui pour finalement, un jour, enterrer Copal, le vieux chien en question avec moi? Et surtout, qui viendrait me voir à l'hosto lorsque j'aurai un cancer? Qui m'installerait un lit médicalisé dans son salon? Bref, comment trouver ce soutien que la famille semble donner de façon inconditionnelle? Et effectivement, vivre seul avec Copal et Titi, au début, ça n'a pas été que facile. Mais voilà. Avec mon ex-compagnon, qui est passé du statut de conjoint à celui de BFF, Best Friend Forever, meilleur pote quoi, on a mis en place une garde alternée pour le chien. J'ai pris une assurance 0 km pour les pannes de voiture. J'ai développé plus d'amitié, j'en ai approfondi d'autres, et c'est très bien que le récit de mon repas de midi ne repose plus sur l'écoute d'une seule personne. J'ai découvert que les amis, les ex, et des fois les amants ou les amantes, pouvaient être super pour me serrer dans leurs bras quand la vie est pourrie, que les voisins et les voisines pouvaient dépanner les voitures embourbées, Et puis, j'ai fini par enterrer Copal avec mon ex-compagnon, nouveau best friend, et nos épaules respectives fonctionnaient toujours aussi bien pour porter ensemble le poids de la peine. Bien sûr, il y a encore des moments où c'est pas facile. Les relations fortes que je noue, il me semble qu'elles se différencient de la famille par le fait qu'elles ne sont pas inconditionnelles. J'ai vu comment les relations pouvaient se distendre quand les proches ont moins de temps, avec un travail prenant, quand elles fondent une famille ou partent vivre loin. Il me semble que c'est moins le cas avec la famille classique, qui est régie par des normes et des obligations. Par exemple, en France, des parents ne peuvent pas choisir de déshériter un de leurs enfants parce qu'elle est partie vivre à l'autre bout du monde, n'a pas été sympa ou a des opinions politiques pourries. Je crois que ça marche pas comme ça avec les amis. Si je partais vivre au Luxembourg, que je devenais méchante et macroniste, ben je suis pas sûre qu'ils soient nombreux, nombreuses très longtemps pour dépanner ma voiture. Aussi, il me semble que ça tient parce que je suis valide, que je peux me déplacer pour nourrir ces liens. Qu'est-ce que ces relations deviendraient sur le long terme si j'étais plus capable de les entretenir suite à une dépression, par exemple? Je pense que vivre sans famille, c'est aussi un luxe matériel, parce que j'ai des revenus qui me permettent de payer seul mon loyer et l'assurance 0 km de ma bagnole. Il y a quand même encore des fois où je me sens seule. Par exemple, quand il n'y a plus personne qui éveille mon intérêt sur Tinder, ou quand les amants et les amantes répondent pas, ne sont pas dispo parce qu'elles ont trouvé le love ou débutent une relation de couple. Mais j'ai découvert que dans ces moments, on pouvait passer de Tinder à OkCupid. Et surtout, que les soirées de solitude, c'est pas marrant mais que ça passe toujours. Et puis, le soutien inconditionnel de la famille est quand même un chouïa conditionnel. Il y a par exemple une étude américaine, publiée en 2017 dans la revue Cancer. Menée sur 2 ans, auprès de personnes âgées de 18 à 39 ans, l'étude vise à étudier les effets d'un diagnostic de cancer ou de sclérose en plaques sur la pérennité du couple. Et les résultats sont douloureux. Après l'annonce d'un cancer, le taux de séparation des patients en couple est de 21% lorsque c'est la femme qui est malade, et tombe à 3% dans la situation inverse. En gros, une femme a 6 fois plus de risques d'être quittée par son conjoint après diagnostic qu'un homme dans la même situation. Je me suis dit qu'en tant qu'hypochondriaque notoire, c'était raisonnable de quitter le navire du couple hétéro avant le cancer et de compter sur une diversité de personnes pour m'aider. Même si je suis toujours pas sûre de chez qui installer mon lit médicalisé. Vivre seule, ça m'a aussi rendu des merdes. Le fait de ne pas vouloir solliciter les autres trop souvent, ça m'a permis d'apprendre à faire mon bois, construire des étagères, changer les rotules de direction de ma bagnole, sans l'aide d'un mari ou d'un papa. Des fois, souvent même, c'est la misère. Je construis une maison et j'ai régulièrement envie de chialer parce que je réalise les conneries que je viens de faire ou à quel point j'ai très mal posé le plancher. Mais il y a aussi tous ces moments où je suis pleine de fierté et de cambouis, une rotule de direction entre les mains. Si je devais résumer, je dirais que c'est fatigant mais très gratifiant. Et donc le plus souvent, je kiffe. J'ai même l'impression de vivre ma meilleure vie depuis que je la vis seule. Le kiff de lire jusqu'à 2h du mat ou au contraire d'aller me coucher à 19h en mangeant des chocopops sous la couette. De partager mon lit avec une vieille chatte ou avec de nouvelles amants, amantes. J'imagine que Gigi Vance va s'étrangler avec son donuts en écoutant cette chronique. Ouais ouais, je doute pas de l'audience de la collective. Mon ex-conjoint, nouveau BFF, attend un enfant, et j'ai souvent l'impression que les gens se disent « La pauvre, elle n'a retrouvé personne, ça doit pas être facile ». Moi-même, au début, ma vie seule, je l'imaginais plus comme une expérience passagère, un moment que l'on vit avant de retrouver quelqu'un, et de redevenir famille pour l'INSEE. Mais assez vite, il y a eu cette certitude que c'était cette vie de quarantenaire célibacha que j'aimais. Et c'est marrant parce que petite, j'ai jamais voulu me marier ou avoir des enfants. Par contre, je m'imaginais quand je serais grande, vivre dans une maison bord de mer avec plein d'animaux. Des chiens à 3 pattes, des chats édentés et de très vieux chevaux. Alors c'est un échec cuisant pour la maison bord de mer, mais je trouve ça assez doux de savoir que ma vie de ménage avec 0 famille, ma vie de célibataire à chat ressemble un peu à mes rêves d'enfant.
Élever des singes, élever des chats, lever la patte à l'opéra, vendez des boîtes de chocolat, prenez le voile, ou le prenez pas, dansez à poil pour les gagas, soyez radeuses, avenue du bois, mais ne vous mariez pas, les filles, ne vous mariez pas.
Alors, Vanessa nous a donné la définition de l'INSEE, mais qu'est-ce que ça peut être de faire famille autrement qu'en mode famille nucléaire? Wikipédia définit la famille ainsi. Une famille, du latin familia, et attention accrochez-vous, un groupement humain formé de personnes liées par consanguinité ou par affinité, qui vivent généralement sous le même toit. Formés par le père et la mère, ceux-ci comprennent les fils et les filles, un groupe d'ancêtres, des descendants, des collatéraux et autres éléments d'une lignée. La famille est la base de l'ordre social et représente un groupe social primaire qui influence et est influencé par d'autres personnes et institutions. En ce sens, le terme se confond avec celui de clan. Ah, donc déjà la définition est un peu plus large et on voit qu'on peut faire entrer plein d'autres modèles dans cette définition. Moi en tout cas, je trouve ça marrant de voir que les liens du sang sont présentés comme le high level de l'amour inconditionnel, alors que concrètement, et même dans la famille nucléaire, celui ou celle avec qui tu fondes une famille est une personne qui ne partage pas ces liens du sang. Sophie Galabru, dans « Faire famille, une philosophie des liens », tente de démystifier cette notion.
Tout se passe comme si le partage génétique protégeait nos liens et leur accordait un supplément de solidité, de beauté ou d'authenticité. Il semble que la biologie donne l'illusion d'assurer la ressemblance et par là, l'amour. Mais ces équations sont-elles justes et pertinentes ? Nous avons déjà vu des êtres du même sang ne pas beaucoup se ressembler physiquement et psychologiquement, et à l'inverse, des êtres sans lien génétique avoir bien des points communs. Et sur ce point, nous devrions nous souvenir que la ressemblance n'est pas seulement acquise par les gènes, mais par l'habitude de vivre ensemble comme de s'aimer. C'est ce que prouve l'histoire de Sophie et Manon, rapportée dans un podcast produit par France Culture sur la parenté. Cette mère et cette fille ont appris très tardivement dans leur existence que Manon n'était pas la fille biologique de celle qui l'a élevée, Sophie. Lorsque celle-ci accouche, son bébé est donné à une autre famille et vice-versa. Cette maman retrouve son domicile et installe la petite Manon, une enfant qu'elle n'a pas portée pendant 9 mois. Fusionnelles, cette mère et cette fille ont fini par se ressembler physiquement, sans être liées par le sang. Plus tard, lorsque l'erreur et l'échange seront découverts et qu'une rencontre sera organisée avec l'autre famille victime, Manon dira avoir immédiatement aperçu des ressemblances avec ses géniteurs. Pour autant, les relations ne se sont pas formées, car, pour moi, ma mère, c'est celle qui m'a élevée. Nous le voyons, non seulement la génétique n'est pas la seule source de ressemblance physique, mais la ressemblance seule ne garantit pas l'affection. C'est au contraire par le désir d'être ensemble qu'une ressemblance se développe. Elle est autant une parenté biologique qu'un partage commun de gestes, de valeurs et d'idées, si ce n'est davantage.
Donc vous me direz, ben vas-y, lance-toi. On est censé être libéré de certains carcans, des mariages forcés et des menaces de punition divine si on sort du droit chemin décrété par toutes ces personnes qui veulent notre bien. Mais c'est pas si simple. Alors oui, on n'est pas empêché concrètement, genre si on découvre que j'ai pas mis les bonnes personnes dans ma famille, je vais pas me retrouver en tôle. Mais des obstacles plus ou moins concrets viennent quand même rendre le chemin vers un autre modèle plus compliqué. Le premier obstacle, ce serait tout bêtement la difficulté de savoir comment on peut faire autrement. Quels autres modèles pourraient exister ? On va pas faire ici un catalogue, mais il existe plein d'autres façons de faire famille. Famille recomposée, monoparentale, homoparentale, coparentalité, famille sans enfants, couple avec enfants n'habitant pas sous le même toit, etc. Ce ne sont pas les modèles qui manquent. Et pourtant, ils sont peu représentés dans les imaginaires collectifs ou les fictions.
Les représentations de la famille sont très majoritairement celles de la famille nucléaire. Dans ce contexte, il est difficile de ne pas se sentir famille de seconde zone, voire pas famille du tout. Moi, par exemple, j'ai été surprise par les livres pour enfants. J'ai maintenant un neveu, et j'ai donc atterri dans ses rayons à la recherche de cadeaux. Il y a plein de livres qui ont l'air très très chouettes, mais même dans les bonnes librairies, c'est dur de sortir du modèle de « un papa plus une maman ». Ou alors ça devient le sujet du livre. Il y a quelques exceptions, où on a par exemple un papa plus un papa, sans que ce soit le thème de l'histoire, mais ça reste très rare. On entend souvent dans les discours réactionnaires une inquiétude sur la façon dont les enfants avec des parents gays ou lesbiennes vont vivre l'écart par rapport à la norme. Mais on se rend bien compte de l'hypocrisie de l'argument quand on voit le peu d'efforts qui sont faits pour que ces enfants puissent trouver des récits qui parlent de leur existence, et donc qu'ils et elles ne se sentent pas en dehors de la norme.
Il y a aussi des représentations carrément négatives de certains modes de vie, comme celle autour du célibat dont parlait notre experte famille en intro. La peur de coller à ces représentations peut faire qu'on accepte plus facilement la domination patriarcale, ne serait-ce que parce que le couple fournit un statut dans lequel on ne sera pas la cible incessante de commérages. Hello va nous lire un extrait d'un désir démesuré d'amitié d'Hélène Giannichini.
Une grand-tante, bien plus âgée que moi, a vécu seule jusqu'à sa mort. Petite, elle m'apparaissait comme un être bizarre, sa solitude me dérangeait. Je me moquais d'elle, de son appartement, de ses habitudes, de son odeur étrange, de ses bises un peu trop mouillées. Sa solitude était la preuve qu'elle avait échoué et nous donnait le droit d'avoir un avis sur à peu près tout ce qui concernait sa vie. J'imaginais chacune de nos visites, la conversation de mes parents, mes jeux avec mes frères, comme une sorte de cadeau qu'on lui faisait. Je me disais qu'on était bien généreux de venir la divertir de notre présence, puisque sa vie, après qu'on ait claqué la porte, devait être si triste. Avec une certitude d'enfant, je n'ai pas envisagé une seconde qu'elle puisse redouter notre venue, nos cris, les conversations hachées par nos demandes, le chaos qu'on mettait chez elle alors qu'elle était en train de lire un livre passionnant, de manger un plat délicieux avec les doigts, de discuter avec ses amis au téléphone ou d'attendre quelqu'un, ou quelqu'une, pour faire l'amour toute la journée. Je ne lui ai jamais posé de questions. Elle est morte avant que je comprenne qu'elle déviait un peu elle aussi et que nous aurions eu des choses à nous dire. Son histoire est à jamais manquante et si l'une des fonctions de la famille est d'établir des récits, le sien n'a jamais été écouté.
Le fait de considérer le célibat comme un chemin de vie à part entière et non une voie de garage serait une posture beaucoup plus féministe que nous devrions soutenir. Notre imaginaire collectif hiérarchise les relations. Et ça, les parents de famille homoparentales peuvent en témoigner, car depuis très longtemps, elles sont la cible de bon nombre d'idées reçues. Et elles doivent se justifier beaucoup plus que les parents hétéros sur leur capacité à être de bons parents. Et que dire alors des parents dont le projet parental n'est pas le fruit d'une relation amoureuse ? On écoute ses amis de longue date au sujet de leur projet d'élever un enfant ensemble.
Voilà, en constatant que l'amitié est souvent dévalorisée en fait par rapport à l'amour, c'est un peu comme si une petite pyramide des relations hein, dans la société et tout en haut il y a l'amour amoureux. Oula, alors là, oulala, c'était en couple, c'est génial.
Ouais, alors que nous on voulait dire, bon, ok, très bien, c'est une norme certes, mais il y a aussi d'autres normes qui existent. Donc il y a le fait de faire en effet un enfant en coparentalité avec des amis ou avec des gens qui veulent aussi être parents. Il faut vraiment être conscient que ces manières-là de faire un enfant, elles sont beaucoup plus empreintes d'obstacles que de juste pouf, ken un samedi soir sur un parking, quoi.
Oui, on a découvert, par exemple, que quand on se présente en tant que meilleure amie devant la médecin en France, elle nous explique qu'on n'a pas, elle est censée vérifier la véracité de notre couple. Donc, en fait, on n'est même pas censé être là. Quand on commençait à parler de ce projet, les gens n'arrivaient pas à imaginer qu'en tant que meilleure amie, on puisse avoir un projet de parentalité. C'était vraiment genre, mais vous vous aimez, mais vous êtes un couple, mais enfin, assumez. Et t'es là, bon bah ça va, ça fait 15 ans qu'on traîne ensemble, on le saurait si on avait envie de se pécho quand même.
Comme si le soin et l'affection apportés à un enfant dépendaient de l'amour romantique entre les adultes qui l'élèvent, plutôt que du respect et de la volonté d'assumer ensemble une responsabilité parentale. D'autant que le sentiment amoureux n'est ni à coup sûr éternel, ni garant de relations respectueuses durables. Mais bon, même en imaginant qu'on puisse s'émanciper du regard des autres et du jugement de la société, il n'en demeure pas moins qu'il existe d'autres obstacles, un peu plus durs à contourner. On l'a dit dans la dernière émission, tout le monde n'a pas la possibilité de fonder une famille. Nous avons parlé des campagnes de stérilisation forcée aux Antilles. On pourrait aussi évoquer le déni d'enfance fait aux enfants racisés. Pensons aux travaux de Fatima Wassak et de Françoise Vergès sur le sujet. L'État peut mettre des sacrés bâtons dans les roues des familles, et dans son arsenal, en plus des violences qu'il perpétue, il y a le cadre législatif.
On va prendre un exemple récent et proche. La législation concernant les familles homoparentales est floue en Italie. Depuis que la mairie de Padoue, par exemple, était passée à gauche, l'administration reconnaissait les deux mères des enfants nés au sein de familles homoparentales. Ceci afin d'assurer le plus de protection possible aux enfants. Jusqu'ici, ces enregistrements avaient été validés juridiquement. Cependant, si ce n'est pas interdit par la loi italienne, aucune loi ne garantit ce droit. Et la validation de ces actes de naissance est donc à la discrétion des tribunaux. Fin 2023, Giorgia Meloni arrive au pouvoir avec son parti d'extrême droite, Fratelli d'Italia, et rapidement, elle fait passer une circulaire. Et cette circulaire incite les tribunaux à rétroactivement retirer la parentalité aux mères qui n'ont pas porté l'enfant. Je ne pourrai plus les accompagner à l'école ou les emmener à l'hôpital en cas d'urgence. Et si ma compagne meurt, mes enfants seront considérés comme orphelins, explique une mère devant le tribunal interrogé par le journal Basta. Et heureusement pour cette fois, le gouvernement n'a pas pu arriver à ses fins. Le tribunal administratif de Padoue a jugé infondée la demande. Mais il aurait suffi de peu, d'un juge en fait, pour que la décision bascule. En France, on a le problème du vide juridique auquel sont confrontés les parents trans, sur lequel le journal Libération a enquêté.
Toutes ces familles se retrouvent dans une espèce de nébuleuse juridique et doivent combattre au cas par cas. On a typiquement l'histoire de Claire, une femme qui a combattu pendant plus de 8 ans en justice pour parvenir à la fois à être reconnue comme femme, mais reconnue comme la mère de son enfant. Pendant ces 8 années, très concrètement, elle n'était rien aux yeux de la loi vis-à-vis de cet enfant. Donc son épouse était la mère de l'enfant, ce qui impliquait que si cette épouse décédait, Claire n'avait aucun droit sur cet enfant qu'elle avait pourtant étant conçu biologiquement et élevé depuis sa naissance.
Et puis, il y a la reconnaissance accordée ou non à la famille choisie. Après l'enterrement de mon grand-père, une petite cousine nous a demandé, au beau milieu d'un jeu de société, « Mais les amis, c'est pareil que la famille ?» On lui a répondu que ça, c'était elle qui choisissait. Mais dans les faits, ça peut être un peu plus compliqué. On retrouve un désir démesuré d'amitié d'Hélène Giannichini.
La mort pose la question de la parenté queer d'une manière particulièrement aiguë et parfois cruelle. Quand une personne gay ou lesbienne meurt, les débats pour savoir si la famille choisie constitue une parenté légitime ou non ont des répercussions sur les testaments et la distribution des biens, notamment ceux qui sont achetés en commun avec des amants, des amis ou des colocataires. La mention des proches dans les nécrologies est la manière dont on dispose du corps du défunt, écrit Kat Weston. Les exemples d'amants jetés à la rue après la mort de leurs compagnons, d'amis exclus des funérailles sont nombreux.
Hélène Giannichini évoque ici un exemple survenu pendant l'épidémie de sida.
Mon amante et amie Myriam a connu la violence de ces situations. Elle a vu certains de ses amis abandonnés par leurs parents, ou au contraire, la famille biologique prendre toute la place et évincer la famille choisie en profitant des avantages que la loi lui confère. Elle était encore terriblement en colère de ne pas avoir été conviée aux obsèques de son ami Nils. Ce dernier ne voyait plus son père ni sa mère depuis des années. Pourtant, c'était eux qui avaient eu le pouvoir de décider après sa mort. Les parents de Nils avaient honte de l'homosexualité de leur fils, et puisqu'elle était tout aussi manifeste chez ses amis, ils avaient choisi de ramener son corps dans sa ville natale sans rien dire. Nils avait été inhumé sans personne, ses amis n'avaient pas pu lui dire au revoir. Mon amante ne leur avait jamais pardonné ce vol et ce mensonge, leur tentative absurde pour rendre leur fils respectable au détriment de ses joies, de ses proches et de ce qui avait été sa vie en somme.
L'éducation des enfants est une responsabilité qui peut être partagée avec d'autres personnes, notamment avec des gens qui ne vivent pas avec des enfants. Dans cette société, cette forme de parentalité est révolutionnaire, car elle se pose en opposition à l'idée que les parents, et en particulier les mères, devraient être les seules personnes à prendre soin des enfants. Beaucoup de personnes dans les communautés noires ont fait l'expérience de ce type d'éducation des enfants par la communauté. Bell Hooks, de la marge au centre, 1984.
Comme le rappelle Bell Hooks, il existe plein de modèles différents dont on peut s'inspirer pour créer des familles plus émancipatrices. La sociologue Gabrielle Richard parle de familles queer comme d'un endroit d'expérimentation. Ces familles sont de fait obligées de s'interroger sur la parentalité, la procréation étant souvent issue d'un parcours plus long et non « naturel » entre guillemets. Et les rôles parentaux sont à inventer. Pour ce faire, elles doivent bricoler, parfois en inventant, parfois en s'inspirant de modèles familiaux qui préexistaient ou coexistaient avec la famille nucléaire. On écoute un extrait de sa vidéo.
On peut penser d'emblée que certains adultes seront des personnes significatives dans la vie de notre enfant, et puis il peut s'avérer que pour plein de raisons, ce ne soit pas le cas. Donc, je pense qu'on gagne justement à considérer la famille non comme quelque chose qui est figé initialement et qui est maintenu tout au long de la vie, notamment de l'enfant, hein, mais comme quelque chose qui peut bouger, qui peut évoluer et qui peut s'adapter aux personnes qui sont concernées.
De fait, cette évolution existe dans les familles recomposées, où d'autres adultes et parfois d'autres enfants viennent partager un quotidien et chacun, chacune doit recomposer avec cette nouvelle forme de famille. Mais c'est aussi la place occupée par des personnes de l'entourage qui peut bouger, avec l'arrivée d'un enfant par exemple. Judith Duportail retrace son parcours de PMA en solo dans Maternité Rebelle et raconte comment elle s'est créée un réseau solidaire pour l'aider à accueillir ses filles.
Bon, je vais faire la lecture vu que Vanessa n'a pas voulu assumer ce rôle de composition. Au cours de ma grossesse, j'ai eu des conversations avec mes amies plus ou moins proches pour savoir si je pouvais compter sur elles, sur ce qu'elles se sentaient de faire pour me soutenir, etc. J'ai posé des questions concrètes et précises. Est-ce que je pourrais venir chez toi à la fin de la grossesse? Te sens-tu de faire des gardes de nuit pour que je souffle? Des personnes dont je me sentais moins proche se sont spontanément rapprochées de moi. D'autres, dont je me sentais très proche, ont pris un peu de distance. Ça pique un peu, mais c'est ainsi. Mieux vaut le savoir pour pouvoir faire au mieux avec les ressources dont nous disposons. Les personnes qui ont répondu présentes occupent à jamais une place spéciale dans mon cœur et cela a créé de très beaux liens entre nous.
Évidemment, on peut être une femme cisgenre, avoir la capacité de porter notre enfant et ne pas souhaiter accéder à la parentalité de cette façon-là. On peut être un homme, se faire appeler papa, être le père de son enfant et pourtant n'avoir aucun lien biologique avec cet enfant-là. Donc, c'est des choses qu'on connaît, mais qu'on est encore très associé et attaché à ces configurations très binaires de la parentalité. Et à cet égard-là, je pense qu'on gagne à aller voir du côté des parents queer et particulièrement des parents non binaires parce que ces parents-là conçoivent bien que leur parentalité n'est pas tant associée à leur identité de genre, mais devrait plutôt être associée à leur désir, à leur disponibilité, puis aux ressources qui leur sont disponibles à un moment donné.
Les coparents ont tout intérêt, pour eux et leurs enfants, à réfléchir ensemble aux traits de caractère ou capacité à chacun à incarner tel type de parent plutôt qu'un autre, indépendamment du genre. Des fois, ça se joue à des détails, mais ça nous paraît tellement important d'offrir un imaginaire plus large aux enfants. Ne serait-ce qu'avec une maman qui est au volant pour les départs en vacances ou un papa qui achète les fringues aux enfants. On a la sensation que ce ne sont pas des choses négligeables. Ça permet d'ouvrir l'imaginaire des enfants et de les rendre plus libres. Tout le monde aurait à gagner à bousculer cette norme de deux parents en couple, géniteurs de leurs enfants et seuls responsables de leur éducation. Avoir par exemple une diversité d'amis ou de voisins qui créent un lien avec les enfants, c'est profitable à tout le monde. Mais ne pas limiter la famille et le soutien qu'elle peut apporter aux parents biologiques, c'est essentiel dans le cas des familles maltraitantes ou dysfonctionnelles. On écoute à ce sujet le témoignage de Marie, travailleuse sociale devenue avec son compagnon famille d'accueil. Elle est au micro de l'émission « Elles étaient une fois ».
Moi, ça me paraissait assez évident de se dire que ben voilà, si ta première famille, ta famille biologique et qui restera toujours ta famille biologique, et je suis toujours extrêmement surprise et touchée par l'acharnement que la plupart des enfants que j'ai pu rencontrer dans mon parcours ont à être loyaux et attachés à leur famille malgré les choses difficiles qu'ils ont pu vivre dedans. Donc en tout cas, malgré cette famille-là qui a pas toujours été peut-être au top et présente pour toi, et ben vas-y, regarde-nous en tant que on va être d'autres adultes qui vont essayer de faire le job et on le fera sans doute pas parfaitement non plus, mais on peut aussi décider du coup que c'est des choses qui vont nous lier. Et moi, je considère vraiment les enfants qu'on accueille chez nous comme faisant partie de ma famille. Mais c'est assez évident et pas dans un truc où je veux m'approprier ou m'approprier un rôle qui n'est pas le mien suivant les choses définies par la société et des choses qu'on entend souvent. D'ailleurs, ah là là, vous êtes famille d'accueil, mais il ne faut pas s'attacher aux enfants. Mais comment ça, il ne faut pas s'attacher aux enfants? Je vis avec eux au quotidien pendant plusieurs années. Mais j'ai pas besoin de projeter quelque chose, moi, pour me réparer moi ou pour avoir l'impression de les sauver, eux. C'est vraiment, j'ai l'impression de leur offrir une autre possibilité de vivre une expérience familiale, plus positive, je l'espère, et en tout cas complémentaire de ce qu' ils auront vécu. Et pour enrayer cette injustice dont on parlait tout à l'heure, si tu nais avec le mauvais jeu de cartes en main et avec la famille qui va être défaillante ou dysfonctionnelle, ça veut pas dire que c'est tout foutu pour toi pour la suite, quoi. On peut essayer de faire autrement. Et puis tu trouveras après tes modèles, toi, à qui tu voudras t'attacher, et c'est des choses qui se choisissent, c'est pas des choses qui se décrètent, quoi.
Se questionner sur le rapport de domination, sur les attentes et les projections que l'on a sur les autres membres de la famille est sans doute l'un des points essentiels pour tendre vers un modèle émancipateur, et surtout pour éviter les situations dramatiques de violence intrafamiliale. Quel que soit le modèle de famille que l'on choisit, l'écoute et les échanges semblent être à la base d'une structure solide, même et surtout quand cela touche à des sujets qui dérangent. Tendre vers un épanouissement de tous les membres et non pas de certains au détriment des autres. Comme le dit Sophie Galabru, une famille admirable est peut-être celle qui accepte de manquer l'idéal de cohésion afin que ses membres soient véritablement accueillis, reconnus et aimés. Le groupe qui exige des siens de ne faire qu'un, regardera tout désaccord et toute dissemblance comme une insupportable trahison.
Bon, nous ne sommes pas vraiment au clair sur ce qu'on a envie de faire de cette notion de famille. Ce dont on est sûr, par contre, c'est de l'immense attachement qu'on a pour les liens que l'on tisse en militant, pour les amitiés qu'on construit et qui nous nourrissent tout autant. Alors pour conclure cette émission et ce cycle autour de la famille, on avait envie de vous partager un dernier extrait d'Un désir démesuré d'amitié d'Hélène Giannichini.
La famille est une valeur centrale de nos sociétés, l'endroit de la sécurité et de la confiance, nous dit-on. Alors que mes parents n'avaient qu'une idée en tête, fuir leur foyer pour vivre leur vie, j'entends de plus en plus de personnes de mon âge dire qu'elles sont très famille ou que leur rêve est de fonder leur famille. L'épidémie de Covid-19 a encore accentué ce recentrement, puisque le foyer a été le lieu de confinement par excellence. On a plein les gens seuls, et malgré certaines difficultés de cohabitation, remercier ses parents, ses frères et sœurs, ses enfants ou son couple d'exister. Le Covid a bouleversé nos liens, en nous empêchant notamment de voir celles qui n'étaient pas notre famille, en interdisant les rassemblements et les fêtes, en qualifiant certaines relations de non essentielles. Pendant quelques mois, la famille a été déterminante, présentée comme un refuge, et nous avons presque oublié qu'elle est aussi un lieu terrible de violence et de crimes, que l'inceste touche 1 personne sur 10, et que les féminicides sont, dans la majeure partie des cas, perpétuée par un mari ou un ancien compagnon. La famille n'a jamais été un havre de paix, alors pourquoi vouloir en fonder une? Parfois le langage est pauvre, à l'image de ce que la société nous offre. Nous tentons d'ajouter des adjectifs comme « choisi » ou « queer » après le mot « famille » pour nous l'approprier, mais il n'est peut-être pas à nous. Noé m'avait dit « La famille, tu sais, je crois qu'il faut la leur laisser. » De qui parlait-elle au juste? Je lui expliquais que je n'y tenais pas plus que ça, mais que je voulais surtout que nous puissions nous protéger, être le contact d'urgence pour être appelé en cas de problème. Les familles queer n'existent pas, Noé en était persuadée. Les deux termes étaient presque antinomiques selon elle. On ne change pas les structures, ce sont elles qui nous changent. C'est un peu comme ces personnes qui rejoignent le gouvernement en espérant le changer de l'intérieur et qui se font broyer en quelques secondes. Elles se font toujours pulvériser. On ne peut pas dénoncer la normativité de la société et en même temps réclamer l'une de ses structures les plus prescriptives. Surtout, disait-elle, être queer exige de se confronter à ce qu'il y a d'idéologique dans la famille. Bien sûr, pour la plupart, les gens aiment sincèrement leur enfant et leur partenaire et pensent avoir trouvé là les modalités de leur bonheur. Mais la famille n'est jamais qu'une affaire privée. Elle participe à l'engencement de la société. Vie privée et vie publique se confondent ici à travers la nécessité de l'ordre. La famille est le lieu privilégié où la tranquillité privée fabrique une certaine forme d'ordre public. La famille est ce qui nous tient, c'est-à-dire ce qui nous aide à vivre en nous polissant.
Noé parle beaucoup pendant le dîner, et je l'écoute très attentivement en sirotant mon verre de vin. Elle pense qu'il ne faut pas détruire la famille, mais plutôt passer à autre chose, l'oublier. Elle veut trouver des alternatives et que celles-ci soient reconnues comme étant tout aussi valables. L'un des arguments pour faire primer la famille est la longévité, m'explique-t-elle. Plus une relation dure longtemps, plus elle est considérée comme valable, et à ce jeu, nos parents, qui nous ont vus naître, gagnent à tous les coups. Noé déplie les implicites de cette obsession de la famille, et son argument de la durée me convainc tout particulièrement. C'est n'importe quoi, ajoute-t-elle en enlevant son pull, les joues rosies par l'alcool. Certaines personnes m'ont plus apporté en une soirée que mon oncle en 30 ans. Je pourrais reprendre sa phrase à mon compte. Noé a plus transformé mon existence que beaucoup de membres de ma famille biologique qui me connaissent depuis ma naissance. Qu'importe si les liens durent, ils peuvent dans leur fugacité nous bouleverser. Renoncer à la famille, ce n'est pas seulement mettre en doute l'ordre et la biologie, c'est aussi faire l'éloge de l'impermanence, du changement. Allongée sur son canapé, je la regarde aller et venir, plutôt convaincue par ce qu'elle me raconte. Elle a peut-être raison, il faut abandonner la famille. Noé allume une cigarette, elle est de plus en plus animée. Je reconnais sa colère à l'accélération de sa voix. Non, mais on peut quand même pas ignorer que l'extrême droite a constamment ce mot à la bouche. Je ne peux que lui donner raison. Oui aux familles naturelles, scande le parti Fratelli d'Italia, dont la candidate aujourd'hui élue a fait du slogan au Roland pétainiste « Dieu, patrie et famille », la devise de sa campagne. Et tu te souviens qui voulait sauver la famille dans les années 2010 ? J'acquiesce. La putain de manif pour tous. Noé et moi étions allés dans les grandes manifestations pour le mariage homosexuel. Nous y avions fait une expérience de la communauté, de la force d'être ensemble dans un même cortège avec nos semblables. Nous n'étions déjà pas pour le mariage, tout en tenant à l'égalité des droits. Mais nous nous souvenions aussi des week-ends où le métro parisien était envahi de pulls bleus et roses, d'enfants avec des drapeaux ridicules et de ce mélange de honte et de rage, du sentiment d'être humilié dans nos rues, à la télé, dans les journaux, par des gens qui ne savaient rien de nos vies. Des enfants de ces familles soi-disant exemplaires qui déferlaient sur la capitale tous les mois se sont depuis découvertes lesbiennes ou gays et doivent vivre avec le souvenir de leur père criant des insultes homophobes, de leur mère fière de dire qu'il n'y avait pas de ça chez eux, de leurs frères et sœurs, de leurs amis de la paroisse comparant l'homosexualité et la zoophilie, les homosexuels et les pédocriminels. Ces années sont une tâche indélébile. Et parmi nous, certaines doivent continuer leur vie après avoir assisté à toute cette haine qui les éclabousse à rebours, avec le sentiment terrible d'avoir défilé contre leur propre existence.
On les déteste, les papas et les mamans de cette marée réactionnaire, continue Noé en se resservant un verre. Si la famille c'est leur truc, je la leur laisse. Ils l'ont trop abîmée. L'amour de la famille, c'est ce qu'ils ont inventé pour nous faire marcher droit. Se méfier de la famille me semble un réflexe plutôt sain. Ou alors, nous ne devrions jamais cesser d'interroger ce qui s'y cache. La famille charrie avec elle d'autres termes. On passe de la famille à la patrie en une seconde, vocifère Noé. Une seule seconde. L'ordre de la nation repose sur l'ordre des familles, parce qu'au fond, il s'agit de la même chose. Seule l'échelle change. L'étymologie nous met d'ailleurs sur la piste. Le terme « nation » vient du verbe « naître » en latin, « naci », et désigne d'abord des individus nés en même temps et au même endroit. Une même portée. La famille est une forme miniature de la nation, et Noé a raison, l'une mène à l'autre en un clin d'œil. Il y a quelque chose de dégoûtant dans la famille, conclut Noé un peu plus calme après une deuxième cigarette. Je souris en la regardant réfléchir à voix haute. Elle me cite la définition donnée par le Front homosexuel d'action révolutionnaire. Famille, première source de névrose et de maladie mentale. On dit « cellule familiale, antichambre de la prison », souvent à perpétuité. Noé se rapproche de moi et pose ses mains sur mes épaules. « Je t'aime beaucoup, mais je ne suis pas certaine de vouloir être enfermée définitivement avec toi. » Ce serait effectivement une assez mauvaise idée. Elle attrape une chaise et s'installe près de moi. Son visage est redevenu sérieux. Elle me dit qu'il y a du vrai dans cette définition du phare, qu'elle a eu une sensation d'enfermement pendant une partie de son enfance. Son angoisse ne s'apaisait que quand elle était à l'école ou en train de faire du vélo, quand elle avait un espace à elle pour respirer librement. Elle me parle de ses parents et de leur divorce, de son père qu'elle ne voyait que les week-ends, et de sa mère qui a travaillé comme elle a pu pour subvenir aux besoins de ses quatre filles. Elle me raconte la pension alimentaire, toujours négociée à la baisse, les problèmes de santé de sa mère qui n'arrangeaient pas leur situation. Aujourd'hui, son père vit dans un grand pavillon dans le sud de la France et sa mère doit se contenter du minimum retraite. C'est ça la famille, insiste Noé. Elle avait également vu son père hériter de ses parents et la manière dont ses oncles s'étaient disputés, comptant chaque euro, estimant chaque objet pour empocher le plus possible. Elle avait été horrifiée par leur mesquinerie. Elle les avait trouvés laids. L'héritage, c'est la clé, ajoute-t-elle. La famille est un moyen de transmettre son argent et de le protéger. Ce serait effectivement bien naïf de croire que la société a imaginé une cérémonie de pur amour. On se marie aussi pour des histoires d'impôts, pour pouvoir transmettre son patrimoine à ses enfants. Il faut considérer la famille comme une institution économique à part entière, qui produit des richesses, mais aussi qui organise la circulation, le contrôle et l'évaluation, que nous appelons des arrangements économiques familiaux. Noé insiste sur cette autre facette de l'idéologie familiale qui s'occupe d'argent en nous parlant d'amour. Dans ce mécanisme, les femmes sont d'ailleurs presque systématiquement lésées. Ce dîner est l'un des moments les plus mémorables de mon amitié avec Noé. La conversation a duré sans que je voie le temps passer, et je sursaute quand Noé me dit qu'il est 2h du matin. Elle travaille dans quelques heures, il faut que je rentre. Je la serre dans mes bras et je claque la porte derrière moi. nous venons d'entamer l'une des conversations qui nous mobilisera le plus dans les années à venir. Il y aura encore beaucoup de soirées comme celle-ci, pendant lesquelles nous hésiterons entre la tentation de hacker le mariage pour servir notre propre agencement et l'envie de renoncer à ce modèle. Quand je me retrouve dehors, il pleut et la nuit est déjà bien avancée.
If you had to wear my shoes, you'd probably take them off too.
There's an outcast in everybody's life, and I am her. There's a shadow in everybody's front door, and I am her. There's a dark cloud in everybody's sunlight, and I am her. And problems that I go through. Sometimes I can't sleep at night. If I hide my face, heaven will be.
C'était La Collective, une émission du collectif féministe du 8 mars d'Aubenas, tous les 2e et 4e jeudis du mois à 18h sur Fréquence 7.